Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Presidency.
Mr. President.
President.
On dit du président des États-Unis qu'il est l'homme le plus puissant du monde, qu'à lui tout seul, il peut faire chavirer la planète depuis son bureau ovale. Tout l'été, sur France Inter, c'est là que nous vous emmenons, à la Maison Blanche, à la rencontre de 8 présidents américains face à l'exercice du pouvoir. Vous ferez connaissance avec des hommes brillants, des fades, des vulgaires, de grands stratèges politiques, des indécis. L'histoire a presque oublié certains d'entre eux, d'autres ont encore leur visage sur les billets de banque. Mais ils ont un point commun. En incarnant à un moment l'histoire de leur pays, ils ont aussi bouleversé l'histoire de la fonction présidentielle. Chacun de ces hommes, à sa manière, nous dit aussi qui est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique.
Mr. President.
Fabienne Saintès, sur France Inter.
Aujourd'hui, épisode 4, Theodore Roosevelt, la présidence au pas de charge. Voilà encore un homme qui devient président des États-Unis sans vraiment le vouloir. Le président en exercice, William McKinley, vient d'être assassiné et Theodore Roosevelt, qui était son vice-président, s'installe dans son fauteuil. Nous sommes à l'automne 1901, les coffres sont pleins, les usines du pays produisent de l'acier, du caoutchouc, des ampoules à filaments. On commence à voir des automobiles dans les rues. Roosevelt sait ça très bien, il accomplira ses deux mandats au rythme de l'Amérique du début du XXe siècle. Au pas de charge. Il sait affronter le monde des affaires, il mène de vraies réformes sociales et il entend donner aux États-Unis une place dans le monde. Il sait utiliser son image aussi, il est d'ailleurs probablement le premier dont les Américains aujourd'hui reconnaissent le visage et il laisse évidemment aussi pour l'histoire un ours en peluche. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Dans cette série de présidents américains, c'est vous qui chaque fois nous éclairez sur leur place et aussi leur héritage, historien, agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Corentin, encore un président par hasard, dites donc, qui doit son mandat à la mort du précédent président en exercice. Ça fait quand même une longue lignée de présidents assassinés tout ça. Hein.
Oui, Theodore Roosevelt vient rappeler que le poste de président est malheureusement aux États-Unis extrêmement exposé à une forme de violence politique qui n'a jamais cessé. Mais à la différence de Chester Alan Arthur, que nous avons rencontré précédemment, si les circonstances sont accidentelles, Theodore Roosevelt, lui, a toujours voulu être président, mm-hmm. Il a toujours eu cette ambition-là. Et si sa nomination a été surprenante, il avait déjà pleinement pensé et réfléchi à l'exercice de son pouvoir.
Et pour le coup, ça, je le disais tout à l'heure, c'est un président que les Américains connaissent bien. Ils peuvent même le dater, c'est peut-être même le premier de leur histoire qui sont capables de dater réellement.
Oui, tout à fait, parce que c'est le premier président du XXe siècle, d'une part, et d'autre part parce que son avènement au pouvoir, c'est le moment précis où les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale et ils s'identifient pour la première fois en tant que président à des États-Unis superpuissance déjà, au moins économique, et cela change tout dans la perception qu'on peut en avoir encore aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire que l'histoire américaine, au fond, commence avec Teddy Roosevelt ? Enfin, en tout cas, l'histoire moderne américaine commence avec Teddy Roosevelt.
On peut effectivement estimer que l'histoire contemporaine des États-Unis comme puissance mondiale commence avec Theodore Roosevelt, qu'il a incarné cette émergence comme puissance, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se rappelle encore de lui. N'est-il pas le seul président du XXe siècle à figurer
sur le Mont Rushmore.
Sur le fameux Mont Rushmore, donc ça prouve son importance encore aujourd'hui dans le récit national des États-Unis.
Theodore Roosevelt, la présidence au pas de charge, un récit documentaire écrit par Adrien Cara, assisté de Rebecca de Nantes, réalisation Fabrice Laigle. Samedi 14 septembre 1901, New York, il est midi. Un bruit mécanique assourdissant s'échappe des sous-sols d'un immeuble du quartier des affaires de Wall Street. À 3 mètres sous terre, dans un mélange de fumée et d'huile, de grosses rotatives tournent à plein régime. Les machines avalent de larges rouleaux de papier qui sont imprimés, pliés, découpés. Et en bout de chaîne défile le journal du jour. L'homme qui se saisit d'un exemplaire pour l'examiner s'appelle Joseph Pulitzer. C'est le directeur de publication du très populaire New York World. Et à la une de cette édition spéciale de la mi-journée, un seul titre, « Le président est mort ».
New York World demandait l'édition spéciale. À la une, le président William McKinley est mort cette nuit à Buffalo. Il a succombé à ses blessures après l'attentat anarchiste par arme à feu dont il a été victime il y a une semaine lors de l'exposition panaméricaine. Madame McKinley était à son chevet et elle a pris tendrement soin de lui jusqu'à ses derniers instants. William McKinley avait 58 ans et il avait été réélu l'an passé pour un second mandat à la tête du pays. Aux dernières nouvelles, le vice-président Theodore Roosevelt est en route pour rejoindre Buffalo.
Au même moment, à 470 km au nord-ouest de New York, sur les rives du lac Erie, à un jet de pierre de la frontière avec le Canada, un train entre en gare de Buffalo. Sur le quai attendent des soldats de la garde nationale, quelques journalistes et le maire de la ville. Lorsque la porte du dernier wagon s'ouvre, un homme trapu, de taille moyenne, apparaît. Il porte de fines lunettes rondes. Sous sa chemise, il dissimule mal son embonpoint et ses bottes, encore poussiéreuses, témoignent de sa précipitation à venir. Il n'a pas été facile à trouver, le vice-président Theodore Roosevelt. Quand William McKinley se faisait tirer dessus, il était quelque part dans les Adirondacks, tout au nord de l'État, tout occupé à l'un de ses passe-temps favoris, la chasse. Prévenu par un télégramme, Roosevelt, dès son arrivée, rend hommage au président défunt, à sa femme, à ses enfants, et tout de suite, il est conduit dans une maison voisine prêtée par un ami. Dans une petite bibliothèque, l'attendent 6 des 8 membres du cabinet, et en présence d'un juge, il prête serment. Theodore Roosevelt, 42 ans, devient à cet instant le plus jeune président de l'histoire des États-Unis. Quel animal, ce Roosevelt ! Tour à tour, il a déjà été chef de la police, adjoint du secrétaire à la marine, cow-boy dans le Dakota, engagé volontaire à Cuba, gouverneur, il a écrit ses mémoires, il fait de la boxe, c'est une force de la nature, il ne tient pas en place. À Washington, il fréquente régulièrement les salons et les dîners du Greedy Grand Club, un club privé masculin de journalistes fondé 15 ans auparavant pour protester contre la fermeture de la Maison Blanche aux correspondants de presse. Theodore Roosevelt aime cette ambiance de machine à écrire dont on entend les touches qui claquent, de cartes de visite échangées et de réseaux qui se créent. Il parle volontiers avec les journalistes et il adore qu'on parle de lui, en bien évidemment.
À la fois juriste, homme politique, historien, écrivain, chasseur de fauves, amateur de randonnées sauvages et grand voyageur, Theodore Roosevelt est un homme qui a déjà vécu plusieurs vies en une seule avant d'arriver à la Maison Blanche. Né à New York, dans une famille bourgeoise, brillant élève à Harvard, Theodore Roosevelt a aussi été cow-boy dans l'Ouest avant de revenir aux responsabilités comme préfet de police de la ville de New York et d'embrasser une carrière militaire en devenant secrétaire adjoint à la marine du président McKinley. Éternel volontaire, il allait vivre ensuite, lors de la guerre contre Cuba, l'un des moments les plus intenses et les plus enivrants de sa trépidante carrière et parfaire à cette occasion son image de marque de battant et devenir, aux yeux des Américains, un héros. Et c'est encore une fois, à New York, qu'il allait faire un spectaculaire retour sur la scène politique en devenant gouverneur de l'État. Un poste qui allait le propulser sur le devant de la scène politique.
Si l'on revient un tout petit peu en arrière, à l'approche des élections de novembre 1900, le Parti républicain cherche un colistier au président sortant William McKinley. Les ténors du parti finissent par arrêter leur choix sur Roosevelt pour deux raisons. D'abord, Roosevelt est objectivement très populaire. Depuis qu'il s'est illustré par sa bravoure pendant la guerre contre l'Espagne à Cuba, devenu gouverneur de New York, il fait sonner le clairon avant ses meetings, il est fougueux, incontrôlable, il sonne aussi la charge contre les influences et les demandes de faveur qu'on attend de lui. Bref, il fait trop de bruit, Il est trop indépendant aux yeux des ténors du parti républicain. Pour calmer les ardeurs de l'ambitieux Roosevelt, quoi de mieux que de l'éloigner en l'imposant sur le ticket qui doit porter McKinley vers sa réélection. 4 ans dans l'ombre du président, dans une fonction surtout honorifique, voilà qui devrait laisser souffler ceux qui estiment que Roosevelt prend désormais trop de place. McKinley est réélu avec une large avance. Theodore Roosevelt devient vice-président. Le plan des Républicains se déroule comme prévu. Jusqu'en septembre 1901, donc, quand un anarchiste tire sur McKinley et le tue. Les ténors du parti, qui comptaient faire taire Theodore Roosevelt, viennent d'en faire le président des États-Unis. Theodore Roosevelt débarque à la Maison-Blanche avec sa femme et ses 6 enfants. C'est bruyant, c'est joyeux, c'est désordonné et surtout, c'est trop petit. Depuis les grandes rénovations faites par Chester Alan Arthur et puis un peu après sous Benjamin Harrison, la résidence du président des États-Unis dispose de vastes salons de réception, de bureaux indépendants, d'appartements privés, mais pas de quoi loger toute une smala en pleine croissance. Roosevelt décide donc de faire construire un bâtiment annexe qui sera relié à la Maison-Blanche par un couloir à colonnade. Ce sera l'aile ouest, la West Wing, et c'est là que le président s'installe avec ses conseillers. Autre changement, le nouveau président tient à une salle de presse permanente. Roosevelt côtoie les journalistes depuis plus de 20 ans. Comme on l'a vu, il aime leur compagnie. Mieux que quiconque surtout, il sait qu'il a besoin d'eux pour convaincre et défendre ses projets face à l'opinion. Et mieux que quiconque, il va utiliser les journalistes pour orchestrer sa propre publicité et éviter de se retrouver à la une sur des sujets défavorables. D'emblée, le président des États-Unis conclut avec la presse une sorte d'accord tacite. Les journalistes n'ont rien le droit de publier sans son accord. Interdiction aussi de citer les paroles du président sans qu'elles aient été revues et corrigées, les réfractaires s'exposant à perdre leur place et celle de leur journal dans la salle de presse. En échange, Roosevelt se montre toujours accessible, aimable, disposé à faire des photos. Ce sera d'ailleurs l'homme politique le plus photographié de son époque. Grâce à cela, on sait le reconnaître dans la rue et c'est bien ce qu'il cherche. Il se prête volontiers au jeu des vraies fausses confidences pendant qu'il se rase. Il fait entrer la presse dans ses appartements privés. Il n'hésite pas à mettre ses enfants en scène. La première famille présidentielle de l'histoire américaine, c'est la sienne. Il invente aussi les discussions off the record le soir autour d'un verre. Theodore Roosevelt bouleverse les rapports entre la présidence et la presse. Et voici ce qu'en écrit l'historien Serge Ricard.
C'est en partie avec Theodore Roosevelt que s'est développée la manipulation de l'information politique. Une pratique aujourd'hui monnaie courante. Prenez par exemple le ballon d'essai, la fuite calculée. L'information de sources dites autorisées mais non identifiées, le matraquage informatif. Tout ça apparaît et se développe avec Theodore Roosevelt. Rappelons aussi qu'à cette période, le président des États-Unis, qu'il est, pouvait lui-même accréditer ses journalistes. Précisons aussi que la presse d'alors ne constituait pas encore un quatrième pouvoir. Elle ne revendiquait que timidement ses droits, trop heureuse d'avoir la faveur de l'exécutif. Tout ça a joué en faveur de Roosevelt.
En ce début d'année 1902, l'activité économique atteint des profits records partout aux États-Unis. Industrie, banque, commerce de détail, chacun y trouve son compte et chacun engrange des profits. Certaines entreprises en deviennent tellement puissantes qu'elles menacent d'échapper à tout contrôle et faussent le jeu de la concurrence. C'est le cas par exemple de US Steel, fondé en 1901 par le banquier John Pierpont Morgan, J.P. Morgan, qui fabrique et transforme de l'acier. À la bourse de New York, US Steel devient la première société de l'histoire à atteindre un capital supérieur à 1 milliard de dollars. C'est le cas aussi de la Northern Securities Company, un conglomérat de plusieurs compagnies de chemin de fer gérées par le même banquier, J.P. Morgan, et par 2 magnats de l'industrie des chemins de fer. En février 1902, la Northern Security Company contrôle à elle seule plus de 90% du transport ferroviaire aux États-Unis, à l'ouest de Chicago. Tous ces grands industriels et capitalistes pensent que le président Roosevelt est dans leur camp il se trompe. Roosevelt se méfie des grandes puissances d'argent. Il sort alors du formol une loi antitrust de 1890 qui n'avait été que très rarement utilisée jusque-là, la loi Sherman. Et il demande au procureur général de poursuivre en justice la Northern Securities Company pour tentative de monopole. Encore une fois, Roosevelt va utiliser la presse pour prendre les Américains à témoin. Il fustige le danger d'une économie tenue entre les mains d'une poignée de banquiers et d'investisseurs. La bataille juridique durera plusieurs années, mais Roosevelt la gagne. La Cour suprême ordonne le démantèlement de la Northern Securities Company et surtout, par cette décision, elle reconnaît le droit à l'administration présidentielle d'intervenir pour réguler, pour rééquilibrer ou pour arbitrer la relation entre l'État fédéral et les intérêts privés, c'est une première. Dans un discours qu'il prononcera plus tard face au Congrès, voici comment Theodore Roosevelt justifie sa politique de mise au pas des trusts.
Les grandes sociétés, ou ce qu'on appelle plus communément les trusts, sont les créatures de l'État. Et l'État a non seulement le droit de les contrôler, mais il a le devoir de les contrôler partout où la nécessité d'un tel contrôle est démontrée. Bien sûr, je consulterai régulièrement les financiers et les hommes d'affaires, comme je l'ai toujours fait. Mais je ne les consulterai pas pour savoir s'il faut ou non respecter la loi, pas plus que je ne consulterai une foule pour savoir s'il faut ou non respecter la loi. C'est l'État qui établira la loi et fixera les règles du jeu.
Au cours de ses mandats, Roosevelt attaquera 45 fois des entreprises en justice au nom de la loi antitrust. Il n'a jamais eu l'intention de faire la guerre aux grandes entreprises. Il sait qu'elles sont indispensables à l'essor du pays. Mais il pense aussi que leur activité doit avant tout profiter à la communauté et aller dans le sens des intérêts de l'État. Au mois de mai 1902, l'administration Roosevelt se retrouve confrontée à sa première grande crise. Dans les mines de charbon de Pennsylvanie, 140 000 ouvriers se mettent en grève. Ils réclament une hausse de salaire de 10% et une journée de 8 heures avec aussi la reconnaissance des syndicats. Les mois passent, le conflit s'éternise, la pénurie de charbon atteint les grandes villes de la côte Est. À l'approche de l'hiver, l'opinion penche en faveur des mineurs. Le président Roosevelt sent qu'il doit intervenir lui-même. Il joue les médiateurs et propose des négociations entre patrons et ouvriers chez lui, à la Maison-Blanche. Les syndicats acceptent, les patrons se font prier. Roosevelt leur explique qu'il est prêt à faire intervenir l'armée. La crise se termine sur la décision d'une commission d'arbitrage qui donne raison aux mineurs et dénonce au passage l'intransigeance des patrons. Les ouvriers auront bien leur augmentation de 10% et une journée de travail réduite à 9 heures au lieu de 10. Cette fois encore, la presse est là, elle met en avant le rôle essentiel du président dans la fin de la grève. Pour Theodore Roosevelt, c'est une nouvelle victoire et un regain de popularité puisqu'il a refusé de trancher en faveur des plus puissants. Après cet épisode, et afin de déjouer en amont les conflits sociaux, le président crée un nouveau poste dans son cabinet, le secrétariat au commerce et au travail, réaffirmant ainsi que l'État fédéral a le droit d'intervenir dans les affaires privées. En novembre 1902, le président Roosevelt se rend dans le Mississippi afin d'arbitrer une fois de plus un litige territorial qui menace de s'envenimer entre l'État et son voisin, la Louisiane. Les journalistes, bien sûr, sont du voyage. Une fois sur place, à l'invitation d'une de ses connaissances, le président profite pour s'adonner à l'un de ses grands plaisirs, la chasse à l'ours. Il autorise évidemment les journalistes de 3 agences de presse à venir le voir au campement. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, plusieurs centaines de soldats patrouillent sur les chemins de forêt aux alentours, chargés de repousser les intrus. L'organisateur met à disposition du président les meilleurs guides de chasse de la région et parmi eux, il y a même l'ancien esclave Holt Collier. On compte aussi plus d'une quarantaine de chiens, des chevaux et bien sûr des fusils, des munitions. Mais malgré cet équipage pléthorique, au bout de 2 jours de traque, aucun ours, rien. Pas un coup de feu n'est tiré. Fatigué et frustré, le président décide de rentrer au camp pour déjeuner. Mais son guide, Old Collier, finit par découvrir les traces d'un ours. Il le traque, l'animal est vieux, affaibli, il ne ressemble à rien, il est vite immobilisé grâce à des lassos et on prévient le président. Lorsque Roosevelt arrive, l'ours est attaché à un arbre. Et on insiste pour que le président tire. Theodore Roosevelt refuse d'exécuter une bête dans un tel simulacre. Les journalistes présents au camp relaient l'histoire. Les journaux de tout le pays s'en emparent pour se moquer de cette partie de chasse qui a tourné au fiasco. Le président se retrouve caricaturé, un bouquet de fleurs à la main, en train de le donner à un ours. Sur un autre dessin, on voit des panneaux qui indiquent à l'ours où aller pour rencontrer le président. Cette histoire fait le tour du pays avec ce titre, Teddy's Bear, et l'épisode fait rire, au point que le président en personne, qui n'a pas encore vu ce qu'il pouvait en tirer, essaie de se justifier et accuse la presse de l'avoir instrumentalisé.
En tant que de pique-nique, ce fut assez agréable. Mais en tant que chasse à l'ours, ce fut tout simplement exaspérant. Je n'ai en tout et pour tout pas tiré un seul coup de fusil. Naturellement, la presse satirique a sauté sur cet échec et s'en est pas mal moquée. Mais comprenez-moi bien, lorsque j'ai débarqué à la gare, les journalistes eux-mêmes me harcelaient tous pour venir. J'ai fait l'effort d'en prendre 3. Même dans ces circonstances, ce n'est littéralement qu'avec l'aide de gardes armés de carabines que j'ai pu empêcher les hommes de la presse jaune de venir également. Les autres journaux, ayant en vain essayé de pénétrer dans le camp et de nous accompagner avec Kodak et autres, se sont ensuite appliqués avec insistance à démontrer que j'avais tenté de faire de la publicité pour cette partie de chasse et que je m'évertuais ostensiblement à attirer l'attention du public.
Dans les semaines qui suivent, les caricatures représentant l'ours et le président continuent de faire le tour des États-Unis. Et puis, bingo, marketing avant l'heure, voilà qu'à New York, le magasin de jouets Schwartz flaire lui la bonne idée et commande 3000 exemplaires d'un ourson en peluche articulé. La popularité de Roosevelt fait le reste, les oursons prennent le surnom de Teddy Bear et deviennent l'un des jouets les plus vendus cette fin d'année-là aux États-Unis.
Down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you'd better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic. Every teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and some wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please, 'cause that's the way the teddy bears have their picnic.
Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today. Watch them catch them unawares and see them picnic on their holiday. See them gaily gad about. They love to play and shout. They never have any cares. At 6 o'clock their mummies and daddies will take them home to bed, because they're tired little teddy bears. Bears are having a lovely time today. Watch them catch them unawares and see them picnic on their holiday. See them gaily gather.
out to play and shout, they never have any cares. At 6 o'clock their mummies and daddies will take them home to bed, because they're tired little teddy bears.
They're so drowsy, so sleepy, they're tired little teddy bears.
Corentin Célin, c'est notre pause habituelle dans le récit pour éclairer ce qu'on vient d'entendre. Il y a beaucoup de choses qui résonnent. D'abord, moi, personnellement, j'ai appris que l'histoire du teddy bear avait commencé sur une partie de chasse totalement ratée, en fait. Donc au début, c'est pas du tout à son avantage, cette affaire.
C'est pas du tout à son avantage, mais grâce au coup marketing de l'ourson, il finira par retourner en partie la situation, puisqu'il dans l'imagerie populaire, il reste l'image d'un président qui a refusé d'achever une bête traquée
et moitié malade,
et à moitié malade, attachée à un arbre, et cette compassion lui sera plutôt créditée.
On verra d'ailleurs dans un instant jusqu'à quel point il sait jouer de la com, Theodore Roosevelt. Il y a quand même autre chose qu'on retient qui nous servira beaucoup aussi pour la suite du récit. Il y a une vraie dimension sociale. C'est important dans l'épisode des mineurs, c'est important aussi dans la lutte contre les grands trusts. C'est le président du peuple, ce Theodore Roosevelt.
Oui, tout à fait, c'est ainsi qu'il entendait en tout cas sa présidence. D'une part parce que il se voulait institutionnellement le représentant du peuple, sans corps intermédiaire, directement élu selon lui par le peuple et à qui seul il devait rendre des comptes. D'autre part, il avait une conception économique assez particulière. Il pensait que pour échapper à des systèmes considérés comme néfastes, comme le socialisme, il fallait des réformes progressistes, infusées par l'État et dont le président devait être le champion. D'où son intervention régulière pour équilibrer la relation entre les divers patronats et le monde du travail.
Il y a autre chose, Corentin Célin, et forcément on y reviendra peut-être un peu plus longuement après, le rôle important des médias. La presse fait réellement son entrée à la Maison-Blanche telle qu'on l'imagine aujourd'hui, sous Teddy Roosevelt.
Oui, Theodore Roosevelt est l'un des tout premiers à avoir compris que la presse avait changé de dimension, que l'on avait désormais des journaux tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, lus dans tout le pays, et donc qui lui permettait justement de s'adresser à toute la nation sans avoir besoin d'intermédiaires, sans avoir besoin de passer par les représentants, les élus du Congrès. Et il sait se servir le premier de cette arme de persuasion massive en politique.
Et alors, c'est intéressant parce que il invente, je vais le mettre entre guillemets, le reportage à la Paris Match. Au fond, la vie du président, la Maison Blanche, les enfants, la salle de bain, il sait jouer avec ça.
Oui, on note chez lui, et ça le suivra durant toute sa carrière, une relation ambivalente à la presse. Il sait que c'est un outil de communication et il s'en sert effectivement en faisant rentrer pour la première fois les journalistes dans l'intimité de sa famille. Mais, comme on le retrouvera plus tard chez d'autres grands personnages au XXe siècle, cela le dérange quand la presse, évidemment, vient à trouver des faits qui sont moins reluisants. Et donc, il est toujours dans cette relation d'amour-haine avec la presse que l'on retrouve, par exemple, chez le président Trump actuellement.
Et on verra, d'ailleurs, on y reviendra, et on verra jusqu'à quel point Roosevelt aussi a pu se faire prendre à son propre piège, au fond, avec les médias. On se retrouve dans un instant.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. when the sun comes shining. Then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
Mark Twain. Monsieur Roosevelt est en quelque sorte le Tom Sawyer du monde politique du XXe siècle. Toujours en train de se mettre en valeur. Toujours sur la piste d'une chance de se montrer en spectacle. Dans son imagination délirante, la Grande République est un vaste cirque Barnum avec lui pour clown et le reste du monde comme spectateur. On me dit d'ailleurs qu'il serait prêt à aller jusqu'à Halifax pour la moitié d'une chance de se donner en spectacle. Et qu'il pourrait aller en enfer pour avoir une chance dans sa totalité.
Vendredi 26 janvier 1906, Washington. Ce soir, c'est le dîner annuel du Gridiron Club. Tout ce que la capitale fédérale compte de correspondants de presse, d'hommes politiques, de chefs d'entreprise influents, a rendez-vous dans cette grande salle de banquet de l'hôtel Willard. À la tribune, les prises de parole se succèdent. La coutume veut que le repas soit rythmé par une série de discours, tons légers, réflexions sarcastiques, blagues caustiques autorisées. Ce dîner des correspondants, il existe encore aujourd'hui sur le même ton. L'écrivain Mark Twain est là dans son discours de plus d'une vingtaine de minutes. Il s'en prend avec humour à la manie du président Roosevelt de vouloir encore et toujours avoir sa tête à la une des journaux. Plus tard, dans la soirée, un autre chroniqueur de Washington évoque les coulisses de la vie de famille du président. Il parle de sa fille aînée, celle qu'on surnomme Princesse Alice, et qui fumerait sur le toit de la Maison Blanche. Le président Roosevelt est là, sa femme aussi, il rit de bon cœur, un peu jaune quand même. Car si depuis son arrivée à la Maison Blanche, Roosevelt s'est allié à la presse pour défendre ses idées, il doit faire face, depuis quelque temps, à une montée d'articles critiques. Le président est au milieu de son second mandat et déjà avant les élections, plusieurs journaux avaient par exemple dénoncé les somptuaires dépenses présidentielles. Roosevelt avait alors lui-même répondu par courrier au directeur du magazine Outlook en lui demandant de rendre publique la réalité de ses dépenses.
Je vous prie de rendre compte et rendre public les chiffres sur la construction d'une nouvelle écurie, le passage en revue de la flotte, l'équipement et le déplacement des deux yachts, le Mayflower et le Sylph, les réceptions du chef de l'État, l'entretien du court de tennis et l'agrandissement de la Maison Blanche. Vous verrez que je n'ai rien à me reprocher et que donc le contribuable n'a lui rien à craindre de frasques, fraudes et folies totalement imaginaires.
Mais les critiques ne s'arrêtent pas là. Certains journalistes accusent le président de ne pas s'impliquer assez contre l'emprise de la spéculation ferroviaire. D'autres dénoncent la ségrégation urbaine, sociale et les conditions de vie des ouvriers dans les villes. Pour ces journalistes-là, Theodore Roosevelt a une liste noire et il va jusqu'à leur trouver un surnom. Les muckrakers, les fouilles-merdes. Preuve que, malgré ses efforts, le président américain ne maîtrise pas son image et la narrative de sa présidence autant qu'il le voudrait. Sur le terrain de la politique étrangère, en revanche, il est en train d'imprimer une marque qui va rester et surtout, il s'implique résolument. Dès sa prise de fonction, le président Roosevelt a mis en place les grandes lignes de sa politique étrangère. Elle sera nationaliste au nom de la supériorité nationale américaine. Elle sera impérialiste puisque Roosevelt entend conquérir des territoires. Elle sera belliciste puisque le recours à la force est toujours une option. Et cela tient en peu de mots et une formule, la politique du big stick, la politique du gros bâton. En matière de diplomatie, disait-il, il faut parler calmement, mais il faut aussi garder un gros bâton dans la main pour frapper au cas où. Ce que veut Roosevelt, c'est élargir et muscler la doctrine Monroe de 1823. C'en est fini de l'isolationnisme forcené. Si le président américain laisse l'Europe à ses affaires et ses empires, il considère que l'Amérique latine, c'est lui, et qu'un seul principe y sera appliqué dorénavant. Les États-Unis ont le droit d'intervenir militairement partout où une quelconque instabilité pourrait menacer leurs intérêts. Et il le dit en 1904 lors de son discours annuel au Congrès.
Ma politique est de protéger les Américains ainsi que les intérêts américains en tout lieu et en toutes circonstances si on s'avise d'y toucher.
La parfaite illustration de ce nouveau principe est celle de l'affaire du canal de Panama. Roosevelt s'était mis en tête de mener à bien les travaux de ce canal qui devait relier les océans Pacifique et Atlantique et donc accélérer grandement le transport de marchandises. Un vieux rêve auquel s'étaient déjà attelés les Européens, notamment les Français, avec Ferdinand de Lesseps qui croyait pouvoir renouveler le succès du canal de Suez. Il n'est pas question de laisser les Européens contrôler le trafic maritime dans cette Amérique latine, zone d'influence américaine. En 1903, le Congrès débloque donc les crédits nécessaires, des négociations s'engagent avec la Colombie qui est alors propriétaire de l'isthme de Panama. Mais les Colombiens refusent soudain de vendre. Roosevelt est furieux. Il menace d'envoyer l'armée, mais opportunément, Panama se rebelle, fait sécession de la Colombie et déclare son indépendance. Tout cela évidemment est cousu de fil blanc, les États-Unis appuient le soulèvement. 15 jours plus tard, ils reconnaissent la nouvelle République de Panama, la route est libre. Un traité est rapidement signé pour 99 ans et 10 millions de dollars. Washington devient propriétaire d'une bande de terre qui sera transformée en canal. Roosevelt a gagné. 3 ans plus tard, il viendra même en personne vérifier l'avancement des travaux. Ce sera le premier voyage d'un président américain hors de son pays. Dans les Caraïbes, au Venezuela, aux Philippines, partout où il sent les intérêts américains mis à mal, Roosevelt ressort sa théorie du gros bâton, quitte à en rester le plus souvent au stade de la menace. Mais désormais, plus personne ne doit jouer impunément avec l'hégémonie américaine. Et pour aller plus loin encore, le président américain, qui veut absolument compter sur la scène internationale, sait aussi parfois jouer les médiateurs. En 1905, il s'impose comme négociateur après la guerre russo-japonaise pour le contrôle de la Mandchourie. Cette médiation lui vaut de recevoir le prix Nobel de la paix, premier américain à obtenir cette distinction. Le premier mandat de Roosevelt touche à sa fin, il imprimera sa marque 2 fois encore. D'abord, il est bouleversé par un livre, écrit par le journaliste et romancier Upton Sinclair, l'un des promoteurs du socialisme aux États-Unis. L'ouvrage s'appelle « La jungle », il décrit les conditions de travail épouvantables dans les abattoirs de Chicago. Roosevelt, comme toute l'opinion américaine, est marqué par cette lecture. Il découvre l'exploitation des employés lituaniens et polonais et surtout les conditions d'hygiène lamentables de la production de viande. Il crée donc une législation d'hygiène alimentaire avec des inspections, avec des amendes, avec des peines de prison pour toute entreprise vendant des produits frelatés. La loi d'inspection de la viande est la première grande loi de protection du consommateur. Dans la foulée, Roosevelt crée le Food and Drug Act, qui plus tard deviendra la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, qui aujourd'hui encore autorise les denrées et médicaments sur le territoire américain. Nous sommes en 1907. Roosevelt pose une dernière pierre à son héritage. Il est peut-être, sans le savoir, le premier président à avoir montré une conscience écologique. Passionné par la chasse, certes, mais amoureux de la nature, Roosevelt sera le premier à créer des réserves naturelles. Il crée le Service national des forêts et inaugure les 18 premiers monuments nationaux, dont le Grand Canyon, des zones où la nature est protégée par l'État fédéral et où les entreprises privées n'ont aucun droit. Depuis la fin de la conquête de l'Ouest, c'est la première fois que l'État américain s'immisce dans la gestion des territoires et s'octroie leur contrôle. Roosevelt avait dit qu'il ne se représenterait pas après 1908 et qu'il choisirait William Taft, son ministre de la guerre, comme successeur. Et en effet, Taft remporte les élections grâce au bilan de Roosevelt et devient à son tour président. Aux yeux des Américains, Theodore Roosevelt part en héros. Pas pour la presse, qui a dû batailler pour écrire ce qu'elle souhaitait pendant toute la présidence. Mais comme un coup de pied de l'âne, Roosevelt, quelques semaines après avoir quitté la Maison Blanche, voit son nom étalé à la une du New York World, Joseph Pulitzer, est le premier à dénoncer les conditions troubles dans lesquelles les États-Unis ont acheté le canal de Panama. Theodore Roosevelt porte plainte pour diffamation, mais le directeur du New York World est innocenté. Ce président qui, pendant ses deux mandats, a mis tant d'énergie à tenter d'instrumentaliser les journaux, aura été à l'origine d'une des premières grandes victoires pour la liberté de la presse aux États-Unis.
Fabienne Saintès, Presidents, sur France Inter.
Tell me now if we can get baby, 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 I'ma bleed all over, yeah. This one lonely last time, yeah. This one lonely last time.
France Inter.
President of the United States.
President. Ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Sintès.
Corentin Célin, comme à chaque fin de récit, on va se livrer, vous allez vous livrer à notre petit exercice traditionnel sur l'échelle de Donald Trump. Où est-ce que vous mettez Theodore Roosevelt ?
On peut le mettre très haut, sans doute à 8 sur 10 au moins, car s'il y a un président auquel Donald Trump veut ressembler, c'est bien Theodore Roosevelt, qu'il cite souvent en modèle et en référence. Pourquoi ? Parce que c'est un New-Yorkais fort en gueule, comme lui, avec une personnalité démesurée, qui a su accompagner la naissance de la superpuissance des États-Unis, imposer les États-Unis sur la scène diplomatique mondiale en jouant de menaces militaires et en jouant toujours de l'usage de la force. C'est donc, on le voit, un homme avec qui il a beaucoup de points communs, un certain goût aussi de la virilité affichée et proclamée dans l'exercice du pouvoir. Et pour finir aussi, une grande confiance en soi. Il faut rappeler qu'avant de devenir vice-président puis président, Theodore Roosevelt n'avait pas hésité à dire, en toute modestie, qu'il était le meilleur gouverneur que New York n'ait jamais eu, ce qui rappelle aussi l'actuel locataire de la Maison Blanche.
Alors, vous l'avez un peu évoqué, la politique étrangère, c'est une partie importante, et effectivement, une inspiration réellement là-dessus pour Donald Trump, sur le côté préservons l'hégémonie américaine.
Alors, il y a eu en tout cas un point commun évident, c'est la relation à l'Amérique latine. Trump a repris, j'allais dire presque mot pour mot, par exemple, dans sa relation avec le Venezuela de Maduro, le corollaire de Roosevelt à la doctrine de Monroe. C'est-à-dire que, de nouveau, Trump a dit « Tout ce qui se passe en Amérique latine et qui est contraire à ce que nous percevons, nous, les États-Unis, comme notre intérêt, peut faire l'objet d'une intervention de notre part. » On sait que, dans certains couloirs de la Maison-Blanche de Trump, on a envisagé une intervention militaire, éventuellement, contre le Venezuela de Maduro. Ce qui rappelle, évidemment, la politique qu'on appelle classiquement de la canonnière qu'avait menée avec la marine, Roosevelt, vis-à-vis d'ailleurs du même Venezuela et plus tard de la République dominicaine.
Mais là aussi, il bombe le torse et au fond, Roosevelt et Trump aussi de son côté, mais d'intervention, il n'y en aura finalement pas tant que ça. C'est-à-dire que le fameux Big Stick, on le brandissait sous Roosevelt, on le brandit sous Trump. Est-ce qu'on l'utilise vraiment ?
Oui, alors, avec la circonstance particulière pour Roosevelt d'arriver au pouvoir alors que les États-Unis viennent de gagner, mais de gagner de façon étrange, la guerre aux Philippines, puisqu'ils ont imposé leur pouvoir colonial aux Philippines, qui devient une colonie des États-Unis, mais après une guerre longue, très coûteuse en hommes, et qui a beaucoup marqué les États-Unis. Et cette guerre aux Philippines limite les possibilités d'intervention militaire de Roosevelt, car il doit toujours faire attention après ce conflit qui a eu lieu entre 1899 et 1902.
Alors, il y a une chose intéressante chez Roosevelt, il aime quand même terriblement être médiateur. Donc, il veut que le pays compte sur la scène internationale. Est-ce qu'on retrouve ça réellement chez le président actuel, dont on a plutôt le sentiment, au contraire, que les autres se débrouillent et laissez-moi me débrouiller de mon côté ?
On retrouve quand même la volonté d'être au centre du jeu, parce que chez Theodore Roosevelt, il y avait la volonté d'être là où les choses se passent, c'est-à-dire d'être toujours au centre du jeu, et donc forcément sous l'œil de la presse. À l'époque, il n'y avait pas encore de caméra, mais sous l'œil de la presse et sous l'œil de l'attention du monde. C'était un homme qui adorait qu'on s'intéresse à lui. Il le montra aussi après sa présidence, quand il visita toutes les chancelleries européennes lors de son retour vers les États-Unis. C'est un homme qui adorait qu'on parle de lui, qui adorait qu'on s'intéresse à lui. Et ça, c'est commun avec Trump, on le voit bien depuis quelques années.
Et on l'a vu peut-être effectivement en politique étrangère, avec la Corée du Nord par exemple, ou des épisodes comme celui-là, qui disent la même chose au fond que cette personnalité de Roosevelt, à votre avis ?
Oui, il y a le goût pour une sorte de diplomatie à grand spectacle. Le fait de montrer sa force également, pensons par exemple, Roosevelt est l'homme qui a fait faire un tour du monde à sa marine nouvellement construite pour montrer à quel point elle était puissante, ce qui rappelle la joie parfois un peu enfantine de Donald Trump avec la toute-puissance militaire. On a de cet aspect-là pour le goût pour le grand spectacle, qu'il soit diplomatique ou militaire. qui est commun entre les deux hommes.
Il y a autre chose qui est vraiment intéressant, vous l'avez évoqué tout à l'heure au milieu du récit, il y a effectivement ce rapport ambigu à la presse, et surtout l'idée de distribuer au fond les bons et les mauvais points, la bonne presse, la mauvaise presse.
C'est tout à fait ça. Alors ça, c'est vraiment aussi un énorme point commun entre les deux, cette volonté de contrôler en permanence le message. Cette obsession qu'on parle de soi, ça qui est commune aux deux hommes, et dès que la presse évidemment se met à parler en mal parce qu'elle fait son travail, eh bien là ça ne va plus. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Donald Trump. Donald Trump aujourd'hui on voit essentiellement sa lutte contre les fake news médias, contre les médias lamestream paresseux. Mais pourquoi il leur en veut autant? Parce qu'il aimerait que ces médias le reconnaissent et le célèbrent, on le voit bien, c'est son obsession. Et c'était même avant la présidence, il aurait adoré être dans les premières pages du New York Times, le quotidien de l'élite new-yorkaise. Et ça, c'est vraiment un point commun avec Theodore Roosevelt, à la nuance près que Theodore Roosevelt a quand même eu beaucoup plus de célébration de la part de la presse qui manque aujourd'hui justement à Donald Trump.
Alors, il s'en mord quand même un tout petit peu les doigts ou pas avec le papier sur Panama de Joseph Pulitzer, notre ami Roosevelt?
Oui, il s'en mord les doigts parce que en fait, sa vie après la présidence ne se passera pas du tout comme il l'avait escompté, et ça en fait partie. Il faut rappeler que Theodore Roosevelt avait été président extrêmement jeune, donc quand il achève sa présidence, il a à peine 50 ans, donc ce qui est tout à fait un âge où on peut envisager d'autres vies. Et quand il veut revenir, il est empêtré par cette affaire, il est empêtré aussi par le fait que son successeur l'a totalement trahi et oublié, Taft, ce qui amène d'ailleurs Roosevelt, ce qui est très rare aux États-Unis, à se représenter en 1912 à la présidence, ce qui est vraiment une rareté, un président qui replonge dans l'arène. Et alors qu'il est absolument certain d'être réélu, il a même fondé son propre parti. On voit là aussi, ça peut être un point commun avec Trump, c'était un républicain très particulier, c'était toujours lui contre le parti. Il est finalement battu en 1912, ce qui sera la grande désillusion de sa vie et le blessera beaucoup du point de vue narcissique.
Merci beaucoup, Corentin Célin. Theodore Roosevelt, la présidence au pas de charge. Un épisode à réécouter en podcast et sur le site de France Inter. Merci beaucoup à ceux qui ont prêté leur voix à ce récit. Merci à Philippe Pirard, à Simon Maisonob, à Eric Oswald, à Cécile Ribocaillol et à Aurélien Labruyère. Et merci à Djoubaka, le programmateur musical de la série.